Bonjour à toutes et à tous. Sur ces quelques notes des méditations de Thaïs de Jeune Massenet, j'ai le plaisir de vous présenter ce recueil de contes préparé tout spécialement pour vous par les bénévoles de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vous reconnaîtrez, je pense, la voix des anciens donneurs de voix dont vous avez pu emprunter les enregistrements et que vous continuez à écouter toujours avec bonheur. En cette fin d'année 2021, nous vous faisons découvrir les voix de nouvelles donneuses de voix qui sont heureuses de vous transmettre le conte qu'elles ont choisi. Mais d'abord, je cède la place à notre président, M. Elian Espagnol, pour les vœux traditionnels. Bonne écoute.
La pandémie que nous subissons en cette année 2021, comme en 2020, aura engendré une année difficile pour le fonctionnement de votre bibliothèque sonore. Confrontés à celle-ci, nos bénévoles n'ont pu ouvrir au public notre accueil qu'avec parcimonie. Néanmoins, tant bien que mal et dans le respect des gestes barrières, ils ont pu accueillir nos adhérents par téléphone depuis notre siège et je les en remercie. Grâce à eux, les activités de votre bibliothèque sonore ont continué à fonctionner et vous, les audiolecteurs, avez pu commander et recevoir chez vous les livres audio que vous souhaitiez. Avec une gestion maîtrisée des dépenses et des recettes, malgré une baisse des dons, tous les membres du comité de pilotage ont géré au mieux l'antenne de Fontaine de l'Association nationale des donneurs de voix, et encore cette année, nous avons reçu les félicitations de notre siège national. Faisons le vœu qu'en 2022, la situation ne soit pas à l'image de ce que nous venons de vivre, et que votre bibliothèque sonore puisse à nouveau rendre les services et le plaisir qu'elle procure à tous ses adhérents, malvoyants ou handicapés à la lecture, au travers de l'écoute des livres audio qu'elle met à leur disposition. Je vous souhaite mes meilleurs vœux 2022, avec surtout la santé. Que votre cheminement soit illuminé d'un soleil éclatant, bordé de fleurs multicolores et agrémenté de gazouillis de chants d'oiseaux. Elian Espagnol, président de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère.
Annie, numéro 341. J'ai enregistré un roman policier, Le choix de Bilal d'Anne-Sophie Lamarzel. La face cachée d'un fait divers dans un quartier d'une cité de Villeurbanne. Conte russe. Une libellule s'est posée sur la lune. Dans les bois, au profond des nids, des oiseaux se sont calfeutrés. N'aie pas peur du vent qui gronde, ni des chiens errant dans l'obscurité. Tous les coquillages qui jouaient sur le sable sont partis se cacher dans la mer, retrouver leur petit berceau. Mille étoiles vont briller, mille étoiles vont te bercer. Tourne la grande ours, tourne la petite ours. Il n'est pas de nuit sans matin, le soleil reviendra très tôt.
Donneur de voix, Claude, numéro 260. Dans les derniers livres que j'ai enregistrés, pour ceux qui aiment le polar, je vous propose La vengeance des cendres de Harald Gilbers et Le bureau des affaires occultes de Éric Fouassier. Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace ? Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace, lui si malin, si rusé ? Pourquoi il saute quand il se déplace ? Ah ! Je vais dire le secret à ceux qui ne le connaissent pas. Écoutez bien. C'était il y a longtemps, 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 lorsque l'éléphant était le roi de tous les animaux. L'éléphant, avec son bon cœur, sa grande gentillesse, il ne pouvait pas rester longtemps roi. Un jour, il a fait venir tous les animaux, ils étaient tous là, ceux qui marchent, ceux qui rampent, ceux qui grimpent, ceux qui volent, ceux qui nagent, les animaux qui ont des poils, ceux qui ont des plumes, ceux qui ont des écailles, ceux qui n'ont rien du tout sur le corps. Tous, ils étaient là. et l'éléphant est venu leur dire « Mes chers petits amis, si je vous ai fait venir, c'est pour vous dire que nous devons tous abandonner la chasse, car la chasse, ce n'est pas bon. À cause de la chasse, toi, la fine biche, toi, la gentille antilope, je vous vois toujours en train de vous cacher pour échapper au lion ou pour échapper à la panthère. Ce n'est pas normal. Nous devons abandonner la chasse. » Certains animaux se sont fâchés. « Dis donc, éléphant, si nous abandonnons la chasse, comment ferons-nous pour manger ?»« Oh, c'est simple, » dit l'éléphant. « On va essayer de faire comme les êtres humains. Chacun d'entre nous aura son champ et chacun cultivera dans son champ tout ce qui lui plaira. » Le singe, lui, il était d'accord. Il sautillait en disant « Ah, si c'est ça, moi j'aurai certainement mon champ de bananes. » Ah, l'éléphant savait bien parler. Il avait si bien parlé que tout le monde a fini par être d'accord. Mais il fallait quand même que chaque animal ait un champ à sa taille, n'est-ce pas? Et pour cela, il avait décidé que chaque animal devait mesurer son champ en comptant avec ses propres pas jusqu'à 10. Ah, vous voyez l'éléphant commençant le premier, balançant ses grandes oreilles, remuant sa toute petite queue? Un pas, deux pas, trois pas, et à 10 pas, l'éléphant avait un grand champ. Suivi de la girafe qui compta élégamment ses 10 pas, un pas, deux pas, et à 10 pas, elle avait un champ aussi grand que celui de l'éléphant. Même la petite souris est venue normalement compter ses 10 pas. Un pas, deux pas, trois pas, et à 10 pas, elle avait un champ à sa taille. Et pendant ce temps, Luc le lièvre, il était là-bas tapi derrière un buisson en se disant « Moi, j'ai pas envie d'avoir un petit champ. » Et quand arrive à son tour, au lieu de marcher normalement, comme tous les autres, que fit-il? Il sauta, flip, un pas, encore plus loin, 2 pas. Et à 10 pas, le lièvre avait un champ aussi grand que celui de l'éléphant et de la girafe. Mais les autres animaux, surtout ceux qui avaient sa taille, sont venus lui dire « Mais dis donc, lièvre, c'est comme ça que tu marches ?»«
Oui, c'est comme ça que je marche. » »«
Alors, prends ton champ. Mais attention, lièvre, le jour où on te verra marcher d'une autre façon, on te fera couper les oreilles. » Et c'est depuis ce jour qu'il saute quand il se déplace. Il sait bien marcher, le lièvre. Il sait très bien marcher. Mais quand est-ce qu'il le fait? Tard dans la nuit, quand il est sûr que personne ne le voit, parce qu'il tient à ses oreilles. Voilà la réponse. Si on vous demande pourquoi le lièvre saute quand il se déplace, répondez tout simplement « parce qu'il tient à ses oreilles ».
Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis donneuse de voix depuis environ 1 an et demi. J'ai le numéro 349. J'ai enregistré 2 livres. Le premier, Comprendre l'islam, ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien, d'Adrien Candard. Et le deuxième, Rien n'est encore joué, la dernière conférence d'Amos Oz. Voici. Dans « Histoire comme ça » de Rudyard Kipling, le rhinocéros et sa peau, au sujet d'un Parsi habitant de la région de Pars en Iran et d'un rhinocéros. Or, il y avait une fois, dans une île déserte des bords de la mer Rouge, un Parsi dont le bonnet reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale. Et ce Parsi vivait au bord de la mer Rouge, sans rien de plus que son bonnet et son couteau, et un fourneau de cuisine de l'espèce à laquelle il ne faut jamais toucher. Un jour, il prit de la farine, de l'eau, des raisins, du sucre, etc., et se confectionna un gâteau qui avait 2 pieds de large et 3 d'épaisseur. C'était positivement un comestible superlatif, ça c'est de la magie, et il le mit dans le four, parce qu'on lui permettait à lui de se servir de ce four, et il le fit cuire jusqu'à ce qu'il fût à point et qu'il sentît bon. Mais, au moment où il allait le manger, voici que descendit de la grève, sortant des déserts inhabités de l'intérieur, un rhinocéros avec une corne sur le nez, deux petits yeux de cochon et peu de manières. En ces temps-là, la peau du rhinocéros lui allait tout juste et collait partout. Elle ne faisait de plis nulle part. Il ressemblait tout à fait à un rhinocéros d'Arche de Noé, mais en beaucoup plus gros naturellement. Tout de même, il n'avait déjà pas de manière, pas plus qu'il n'a de manière aujourd'hui et qu'il n'en aura jamais. « Et dis quoi ?» Et le Parsi lâcha son gâteau et grimpa jusqu'en haut d'un palmier, vêtu seulement de son bonnet, d'où les rayons du soleil se reflétaient toujours avec une splendeur plus qu'orientale. Le rhinocéros renversa le four et le gâteau roula sur le sable. Le rhinocéros l'empala sur la corne de son nez et le mangea, puis s'en alla en remuant la queue et regagna les déserts désolés et totalement inhabités de l'intérieur qui touchent aux îles de Mazadéran, Socotora et au promontoire de l'équinoxe majeur. Alors, le Parsi descendit de son palmier, remit le four sur pied et récita le sloka suivant, lequel, puisque vous ne le connaissez pas, je vais avoir avantage de vous le rapporter. Toujours il en cuit, à l'imprudent qui chipe les biscuits par le Parsi cuit. Ce qui voulait en dire bien plus long que vous ne sauriez croire. Pourquoi ? Parce que 5 semaines plus tard, il y eut une vague de chaleur dans la mer Rouge et tout le monde ôta tous les habits qu'il avait sur le dos. Le Parsi ôta son bonnet, mais le rhinocéros enleva sa peau et la jeta sur son épaule comme il descendait se baigner dans la mer. Dans ce temps-là, elle se boutonnait par-dessous au moyen de 3 boutons et ressemblait à un waterproof. Il ne fit aucune remarque au sujet du gâteau du Parsi parce qu'il l'avait tout mangé et que jamais il n'a eu de manière ni n'en aura maintenant ou plus tard. Il se mit à barboter dans l'eau et à souffler des bulles par le nez. Il avait laissé sa peau sur le bord. Bientôt, le Parsi arrive et trouve la peau et sourit d'un sourire qui lui fit 2 fois le tour de la figure. Puis il dansa 3 fois autour de la peau et se frotta les mains. Ensuite, il alla à son camp et emplit son bonnet de gâteau, car le Parsi ne mangeait jamais autre chose que du gâteau et ne balayait jamais son camp. Il prit la peau, et il secoua la peau, et il racla la peau, et l'incrusta de vieilles miettes sèches de gâteau qui grattaient de quelques raisins brûlés tant et tant qu'il y eut moyen. Puis il remonta dans son palmier et attendit que le rhinocéros sortît de l'eau et remit sa peau, ce qu'il fit. Il boutonna les 3 boutons et ça le chatouilla comme des miettes dans un lit. Alors, il voulut se gratter et ça devint pire. Alors, il se coucha sur les sables et se roula, et chaque fois qu'il se roulait, les miettes le démangeaient 10 fois plus. Alors, il courut au palmier et se frotta et se refrotta encore. Il frotta tant et si fort que sa peau fit un grand pli sur les épaules et un autre pli dessous, là où il y avait les boutons. Mais les boutons avaient sauté à force d'être frottés, et il fit d'autres plis tout autour des pattes. Son humeur se gâta, mais c'était bien égal aux miettes. Elles restaient sous sa peau et le démangeaient très fort. De sorte qu'il rentra chez lui très en colère et se gratta tout le long. Et depuis ce jour, tous les rhinocéros ont la peau qui fait de grands plis et un mauvais caractère. Tout ça à cause des miettes qu'il y a dessous. Mais le Parsi descendit de son palmier, avec sur la tête son bonnet d'où les rayons du soleil se reflétaient avec une splendeur plus qu'orientale, emballa le fourneau et s'en alla dans la direction d'Orotavo, d'Amygdala, des hautes prairies d'Anantarivo et des marais de Senapu. Thank you.
Bonjour, je suis Guy, lecteur numéro 342 de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Cette année, en 2021, j'ai enregistré « Mes petits chéris », une sélection de lettres de Rudyard Kipling à ses enfants, « Le temps des tempêtes » de Nicolas Sarkozy, un mémoire de Master 2 en sciences humaines et sociales sur les représentations de la Vierge de Miséricorde dans le Dauphiné et l'ancien duché de Savoie à la fin de l'époque médiévale. Un ouvrage sur les traces des Vaudois des Alpes au Luberon, suivi d'une pièce de théâtre, La Vaudoise et le Franciscain. Et enfin, La France n'a pas dit son dernier mot, d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, je voudrais vous lire Le Conte des Nuages, de Frédéric Neveur. Et comme tout conte qui se respecte, il commence par « Il était une fois » des nuages blancs et des nuages noirs. Ils étaient regroupés ensemble, très haut dans le ciel. Malgré leur ressemblance, ils étaient tous tout doux et moelleux, et les liens forts tissés entre eux, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Les nuages noirs aimaient voler et danser. Ils n'avaient jamais assez d'espace pour jouer avec le vent, et leur curiosité était plus gigantesque que le nombre d'étoiles dans l'univers. Les blancs, calmes et sages, ne voulaient jamais se fâcher, mais ils interdisaient souvent aux nuages noirs de bouger et de s'amuser. Très tristes, les nuages noirs pleuraient régulièrement en cachette. Un jour, les nuages noirs, toujours plus sauvages et imprévisibles, voulurent partir du royaume des cieux. En effet, le vent leur avait conté tant de légendes à propos des créatures vivantes à la surface de la terre, qu'ils ne désiraient plus qu'une chose, aller jouer avec elles. Les blancs, en apprenant la nouvelle, s'opposèrent à leur départ. Pour la première fois, ils se fâchèrent, expliquant que c'était trop dangereux, que la surface de la terre n'était pas faite pour eux. Mais leur envie et leur curiosité demeuraient trop grandes, et, avec l'aide de leur ami le vent, ils s'enfuirent dans un orage de sanglots. Les nuages noirs volaient à vive allure quand ils aperçurent enfin le toit du monde. Tout était très calme. Ils descendirent jusque dans les plaines et les vallées, explorèrent les reliefs à la recherche des créatures vivantes pour jouer avec elles. Personne. Pas de vie. Ils étaient définitivement seuls et n'avaient plus la force de revenir au royaume des cieux. Alors, ils restèrent suspendus à une montagne pointue, pleurant leur insouciance, en demandant pardon aux nuages blancs. Ils pleurèrent tant que des torrents se formèrent, puis des rivières et des fleuves. Bien vite, la surface de la terre, si calme, se transforma, et la vie se mit à rigoler dans ce désordre joyeux. Des mers et des océans apparurent de leurs larmes. Leur aspect noir changea, et ils devinrent gris. Dès lors, le poids de leur tristesse évacué sur terre, ils se sentirent plus légers et furent capables de remonter au royaume des cieux. Là-bas, les nuages blancs se faisaient un sang d'encre, ce qui avait terni leurs volutes immaculées. Le retour des nuages noirs fit pleurer les nuages blancs de bonheur. En définitive, ils se mélangèrent tous dans une grisaille de joie. Depuis cette histoire, les nuages vivent mélangés au-dessus de la surface de la terre. Oh, de temps en temps ils se fâchent, comme dans toutes les familles, et certains d'entre eux pleurent. Néanmoins, blancs, noirs ou gris, ils voyagent ensemble dans le monde entier, en regardant les créatures vivantes grandir pour les prier ou les maudire. Maintenant, quand tu regardes les nuages, observe leurs couleurs. Si certains sont plus noirs que les autres, c'est qu'ils sont plus jeunes et plus curieux que d'habitude. Ils veulent découvrir le monde. Mais, comme depuis la nuit des temps, ils reviendront un jour chez eux, après avoir ressenti l'amour au bout de la terre.
L'arbre à soucis de Carole Brightman. Un jour,
j'ai retenu les services d'un menuisier pour m'aider à restaurer ma vieille grange. Après avoir terminé une dure journée au cours de laquelle une crevaison lui avait fait perdre une heure de travail, sa scie électrique avait rendu l'âme, et pour finir, au moment de rentrer chez lui, son vieux pick-up refusait de démarrer. Je le reconduisis chez lui, et il demeura froid et silencieux tout au long du trajet. Arrivé chez lui, il m'invita à rencontrer sa famille. Comme nous marchions le long de l'allée qui conduisait à la maison, il s'arrêta brièvement à un petit arbre, touchant le bout des branches de celui-ci de ses mains. Lorsqu'il ouvrit la porte pour entrer chez lui, une étonnante transformation se produisit. Son visage devint rayonnant. Il caressa ses deux enfants et embrassa sa femme. Lorsqu'il me raccompagna à ma voiture, en passant près de l'arbre, la curiosité s'empara de moi, et je lui demandai pourquoi il avait touché le bout des branches de cet arbre un peu plus tôt. « C'est mon arbre à soucis, » me répondit-il. « Je sais que je ne peux éviter les problèmes, les soucis et les embûches qui traversent mes journées. Mais il y a une chose dont je suis certain. Ceux-ci n'ont aucune place dans la maison avec ma femme et mes enfants. Alors, je les accroche à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je rentre à la maison. Et puis, je les reprends le matin. Ce qu'il y a de plus drôle, » il sourit, « c'est que lorsque je sors de la maison le matin pour les reprendre, il y en a beaucoup moins que la veille lorsque je les avais accrochés. » La jarre abîmée. Auteur inconnu. Un porteur d'eau indien transportait deux grandes jarres aux extrémités de sa planche. L'une des jarres était fêlée et perdait presque la moitié de son précieux contenu au cours de chaque voyage, alors que l'autre conservait toute son eau de source jusqu'à la maison du maître. La situation dura ainsi pendant 2 ans. 2 ans au cours desquels le porteur d'eau ne livra qu'une jarre et demie d'eau chaque jour à son maître. Bien sûr, la jarre sans défaut était fière de sa performance. Elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faillir. Mais la jarre abîmée, elle, avait honte de son imperfection. Elle se sentait démoralisée de ne pouvoir accomplir que la moitié de sa tâche. Au bout de ces 2 ans, qu'elle considérait comme un échec complet, la jarre abîmée dit au porteur d'eau, un jour qu'il la remplissait à la source, « Je me sens coupable et je te prie de m'en excuser. Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Depuis 2 ans, je n'ai réussi à porter que la moitié de ma charge à notre maître à cause de cette brèche qui fait fuir l'eau. Par ma faute, malgré tous tes efforts, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau prévue. » « Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, » lui expliqua la jarre abîmée. Touché par cet aveu, et plein de compassion pour la jarre, le porteur d'eau lui répondit, « Je vais te demander quelque chose. Tout à l'heure, quand nous reprendrons le chemin du retour vers la maison du maître, je veux que tu observes les fleurs qui poussent sur le bord du sentier. » Au fur et à mesure que le porteur d'eau avançait le long de la colline, la vieille jarre apercevait le bord du chemin couvert de fleurs baignées de soleil. Sur le moment, celles-ci lui mirent du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, la tristesse l'envahit de nouveau. La jarre avait encore une fois perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit alors à la jarre, « Ne t'es-tu pas aperçu que toutes ces belles fleurs, elles poussent de ton côté du chemin ?» alors qu'on en voit à peine du côté de la jarre en bon état? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de ton côté du chemin, et chaque jour tu les as arrosées de ton précieux contenu. Grâce à toi, j'ai pu, pendant ces 2 ans, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais trouvé de fleurs aussi fraîches, aussi gracieuses, aussi coloré. C'est ainsi que la jarre abîmée apprit, attendrie, qu'elle apportait, elle aussi, sa part de bonheur dans la vie.
Bonjour à tous, je suis Henri, donneur de voix numéro 318. Je vous présente ici quelques livres dernièrement enregistrés. La colloque de Jean-Philippe Blondel, roman jeunesse. Les parents de Romain ont hérité d'un grand appartement situé dans la ville de son lycée. Ils hésitent à le vendre ou à le louer. L'adolescent y voit un coup de pouce du destin. Et si c'est lui qui l'habitait ? Les parents se laissent convaincre. Ils trouvent des colocataires. Une année pleine de changements s'ouvre pour Romain. Émancipation, amitié, amour et contrainte de la vie en communauté. Une belle aventure commence. La sacrée semaine qui changea la face du monde. De Marc Auger. Le jour de Pâques du 1er avril 2018, le pape prononce trois mots qui sidèrent instantanément chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, et déclenche un tsunami mondial. C'est le début d'une folle semaine qui va embraser la planète et bouleverser l'avenir de l'humanité. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser le souverain pontife à une intervention aussi intempestive? Gino Bartali, un champion sauveur d'étoiles, d'Ahmed Kalouaz. Gino Bartali ne fut pas seulement un champion cycliste, vainqueur trois fois du Tour d'Italie et deux fois du Tour de France. Il fut aussi un héros discret. En 1943 et 44, il a aidé à sauver 800 juifs de la déportation en faisant passer des faux documents dissimulés dans le cadre de son vélo. Messager d'un réseau de résistance, Gino Bartali a parcouru des milliers de kilomètres au nez et à la barbe des patrouilles fascistes et nazies. Malgré cela, il n'a jamais parlé de ses activités clandestines, même après la guerre. D'autres ont témoigné pour lui de son œuvre de vie. Récompensé en septembre 2013 par le mémorial de Yad Vashem, Gino le Pieux est devenu Gino le Juste. Les plus beaux contes zen de Henri Brunel. En guise d'au revoir. Un moine zen se disposait à parler sur la grande place du village. Il avait soigneusement rédigé son discours et il s'apprêtait à le lire quand un brusque coup de vent fit s'envoler les feuillets dans les branches d'un citronnier. Pris au dépourvu, incapable de retrouver le fil de sa harangue, il dit « Mes amis, voici en résumé ce que je voulais vous exposer. Quand j'ai faim, je mange. Quand je suis fatigué, je dors. Mais tout le monde ne fait-il pas comme vous, maître ? Interroge quelqu'un dans la foule ? Non, pas de la même façon. Pourquoi, maître ? Quand les gens mangent, ils pensent à mille choses. Quand ils s'endorment, ils pensent à leurs problèmes. Voilà pourquoi ils ne font pas comme moi. » Alors le moine descendit au milieu d'eux, recueillit les dons, et à ceux qui le questionnaient encore, il répondait. Quant aux détails, vous les trouverez dans les branches du citronnier.
Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, numéro 240, aux Bibliothèques sonores de Grenoble, où je suis donneur de voix depuis 17 ans. Parmi les 170 livres que j'ai enregistrés, voici quelques suggestions. Les trois jours de Pompéi, d'Alberto Angela, Le fantôme de Goya, de Jean-Claude Carrière et Milos Forman, Les pantoufles du samouraï, de Patrick Covin, Les roses noires, d'Antoine Daniel, La confession, de John Grisham. J'ai choisi pour vous ce conte de Henri Gougaud, Saint Guignefort. C'était un jour de mai. Un nourrisson dormait sous un pommier fleuri. À côté du berceau, sa nourrice brodait en chantonnant. Un lévrier jouait dans l'ombre bleue à chasser des insectes. Jacques de Châtillon, le seigneur du château, se pencha sur l'enfant, sourit à ses yeux clos, à ses joues rebondies, puis, caressant son chien qui se frottait à lui, « Je te confie mon fils, garde-le, Guignefort !» dit-il joyeusement. Il s'en alla. La nourrice un instant resta le front penché sur son travail d'aiguille. Dès qu'il se fut éloigné, elle se leva et courut à la haie où le jeune fermier qui occupait son cœur l'attendait, l'œil gourmand. Le père de l'enfant revint après une heure, et ce qu'il découvrit à l'ombre du pommier lui fit perdre l'esprit. L'herbe, près du berceau, était tachée de sang. Le chien, à quelque part, haletait, la queue basse et le museau rougi. L'homme appela la nourrice. Elle avait disparu. Guignefort s'effraya des cris fous de son maître. Il s'en alla, piteux, s'aplatir contre l'arbre. Le seigneur, hors de lui, empoigna un bâton, convaincu que son chien qui se cachait de lui venait de dévorer son fils sous le drap blanc. Il assomma la bête, il s'acharna dessus, en la frappant encore, il lui brisa l'échine. Puis courut à l'enfant et le prit dans ses bras. Il le vit bien vivant, sans souci ni blessure. Alors, sortant soudain de son affolement, il regarda encore, hébété, l'alentour. Il vit le pelage roux d'un renard sous la haie. L'animal était mort, sa gorge était ouverte. L'homme aussitôt comprit que son bon Guignefort avait en vérité défendu le berceau, et que c'était le sang de la bête des bois qui rougissait sa gueule. Jacques de Châtillon venait d'assassiner le sauveur de son fils. La peur l'avait trompé. Il crut mourir de honte. Il ne put que pleurer et battre sa poitrine. Il enterra son chien. Pour que son souvenir demeure dans les cœurs, il fit édifier sur sa tombe un petit monument où le nom de Guignefort fut inscrit. Le temps fit son chemin, ne laissant après lui que buissons et décombres. Le château s'effondra, et dans le jardin abandonné aux herbes, aux cailloux, aux ronciers, seule resta debout cette dalle gravée. On oublia qu'un chien était enterré là. Mais de tout le pays, on était accouru autrefois sur la tombe, et l'on continua. Guignefort, peu à peu, dans l'âme populaire, devint un saint chrétien, protecteur des enfants. Un culte obscur naquit. Près du château ruiné vivait en ce temps-là une femme sans nom. Elle était guérisseuse. À qui lui amenait son nourrisson malade, elle ordonnait d'aller allumer deux cierges, sur la pierre moussue où gisait Guignefort, de déposer entre eux l'enfant et de s'éloigner de lui jusqu'à ne plus le voir ni entendre ses pleurs. La guérisseuse, dans le bois, à côté de la mer, invoquait les esprits, et quand les deux lueurs, au loin, s'étaient éteintes, on revenait chercher le petit, confié à la garde du mort, dont on ne savait rien. L'Église s'émut un jour de ses pratiques. Le chien fut exhumé, ses restes dispersés et sa sépulture détruite. Mais jusqu'aux environs de ce 20e siècle, on s'obstina pourtant à venir dans le bois, où n'était désormais plus rien que la verdure, prier saint Guignefort de redonner vigueur aux marmots maladifs et aux époux frappés d'impuissance virile. L'espoir est un chien dent, la mémoire est un rêve et la foi sauve tout. Cet animal martyr fut souvent secourable. Beaucoup d'enfants perdus furent guéris par lui. Je dis ce qu'on disait, rien de plus, rien de moins, au temps où la folie était de ne pas croire aux esprits des forêts, aux faunes, aux lutins et aux chiens du bon Dieu.
Je suis Léa, donneuse de voix numéro 358 de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Je suis en cours d'enregistrement d'un premier roman, « Sauf les fleurs » de Nicolas Clément. La dent. On prête ce mot à Voltaire, qu'on dit geignard et souffreteux, « Je meurs dent à dent ». Notre homme, quant à lui, en était à sa dernière, la dent du lapin. Et redoutait le pire, cela va de soi. il aurait pu se dire qu'on peut fort bien vivre sans dents. Ainsi des enfants qui naissent anodontes pour ne pas blesser le sein maternel. Ainsi de Voltaire lui-même, qui, tout édenté qu'il fût, à l'en croire, vécut néanmoins jusqu'à 84 ans, sans mourir par les dents, à ce qu'on sait. Mais allez donc faire entendre raison à un homme qui s'en remet à la parole d'un philosophe, fût-il des Lumières, et voltairien de surcroît. Il veillait à sa dent comme à la prunelle de ses yeux, du bout de la langue, délicatement, pour en apprécier l'enracinement. Il s'était mis depuis longtemps à la purée, au steak haché, au yaourt, mangeait du bout des lèvres, buvait à courte gorgée. Sa dent, pourtant, oscillait chaque jour davantage sur son socle. Elle s'échoua un beau soir dans un bouillon clair et s'ensabla dans un rien de vermicelle où il la repêcha du bout de sa cuillère. Curieusement, il ressentit alors une grande vague de sérénité l'envelopper tout entier. Il avait tout prévu. Ses affaires étaient en ordre. Il fit lui-même sa toilette des morts, se parfuma discrètement, passa son costume des dimanches et s'allongea sur son lit, les mains croisées sur le ventre. Ayant dit ses prières, par précaution, il s'endormit sans peine au cinquième mouton. Il fut tout étonné de se réveiller le lendemain matin à l'heure habituelle et de s'éprouver bien vivant des pieds à la tête. C'est alors qu'il passa la main sous le traversin, là où il avait niché sa dernière dent avant de se livrer corps et bien à la nuit éternelle. À la place, il y avait trois caramels. Maurice Zignol.
Liliane, donneur de voix, numéro 353. Je suis nouvelle parmi les donneurs de voix et j'ai enregistré 50 minutes avec toi de Cathy Itak, YTAK, et MEM de Kim Thuy, THUY. Voici un petit conte de Muriel, trouvé sur Internet. Il était une fois un chat. Oui, un chat. Un simple chat. Sans aucune particularité à première vue. Ce chat vivait dans une maison. Une maison banale, comme il y en a tant dans les villages alentours. Ses maîtres étaient des gens simples, sans histoire. Une famille comme il y en a tant, prise dans le train-train quotidien. Noël approchait. Il faisait froid dehors et tellement bon dans la maison. Mais il fallait bien que les enfants aillent à l'école et les parents au travail. Seul le chat restait à la maison. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que font les chats lorsque leurs maîtres ne sont pas là? Un jeune chat fait forcément des bêtises. Mais un chat adulte, un bon gros matou, que fait-il tout seul dans une maison? Croyez-vous qu'il ne fasse que dormir et manger? Non, bien sûr. Les humains osent préjuger des capacités de leurs animaux domestiques. Quel dommage! Le chat, seul dans la maison, semblait attendre quelque chose. Il furetait autour du sapin décoré, mais il n'était pas à la recherche d'un moineau. Le soir, dès que la famille rentrait, il reprenait sa place sur le canapé, en véritable pacha qui ne laisse rien deviner de sa nature profonde. Enfin, le jour que tous les enfants attendaient arriva, le 24 décembre. Une certaine frénésie envahit l'atmosphère de la maison, d'habitude si tranquille. Mais le chat ne se laissa pas troubler. Il regardait les agitations de ses maîtres de haut, trônant toujours sur le canapé. Le soir, il fut difficile de coucher les enfants surexcités. Le chat demeura impassible. Il savait. Alors que toute la maisonnée était endormie, seul veillait le chat. Il voyait tout. Il savait tout depuis son poste de vigie. Minuit sonna. Silence. Le chat, toujours attentif, ne perdit pas une miette de la magie de Noël. Le temps passait, le chat n'avait pas bougé d'une moustache. Au petit matin, les enfants se levèrent et coururent au salon. Les cadeaux étaient là. Le chat aussi, toujours au même endroit. Il assista au rituel, l'air impassible. Et pourtant, lui, il savait. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année et une belle année 2022.
Je m'appelle Marie. Je suis donneuse de voix numéro 362 à la Bibliothèque sonore de Grenoble. Je suis en train d'enregistrer l'autoportrait au radiateur de Christian Bobin. J'ai choisi un conte pour vous. Il s'agit de La vieille dame du Châtelet, écrit par Henri Gougaud. La vieille dame du Châtelet. L'aube venait place du Châtelet. C'était l'heure vide et lasse où Paris se réveille. Un taxi errait seul sur l'asphalte désert. Le long des trottoirs, personne ou presque. Il vit, au coin du quai, une main se lever, une ombre s'avancer au bord de la chaussée. Il vint à sa hauteur. C'était une vieille dame. Son corps semblait perdu dans une robe d'un autre âge. Un extravagant chapeau de velours noir trônait sur son chignon. Son visage menu était poudré de blanc sous l'antique voilette. Le chauffeur quitta son siège pour aider l'aïeule à prendre place sur la banquette arrière. Elle s'installa. Dès qu'il eut démarré, elle lui toucha l'épaule et lui tendit un papier, une feuille pliée, mille fois dépliée, une ruine, un lambeau. L'homme d'un œil déchiffra quelques mots tracés d'une écriture désuète et presque illisible, tant l'encre était pâlie. « Conduisez-moi en haut de la rue de la Roquette. Merci. » Muette, se dit-il. Elle est muette et seule. Où sont donc ses enfants ? Il se sentit soudain malheureux. Il aurait eu plaisir à circuler dans ce désert nocturne s'il n'avait pas été aussi las. Une odeur de moisie envahit la voiture. L'haleine de la nuit, pensa-t-il vaguement. Le jour était proche. Il croyait tout savoir de cette heure encore sombre où les fenêtres s'allument. Il n'avait jamais remarqué ce parfum âcre et lourd de terre remuée. Il tout sauta, frileux, remua les épaules. En haut de la rue de la Roquette, il se rangea le long du trottoir et descendit pour aider sa passagère à sortir. Il ouvrit la portière. Il n'y avait personne sur la banquette. « Bon sang » dit-il, le cœur soudain tonnant. La moleskine noire était encore creusée par une indiscutable présence. Quelque chose brillait, là, sur le siège. L'homme se pencha. C'était une pièce de monnaie. Il s'éloigna, l'examina dans la lumière d'un réverbère. Il la frotta entre ses doigts. C'était un louis d'or, aussi luisant et neuf qu'une lune à son plein. Il traversa la rue en hâte, chercha sa passagère. Il devait lui rendre sa monnaie, la course ne valait pas ce prix. Les façades alentour sortirent de la nuit. L'homme, tournant partout la tête, découvrit tout à coup qu'il était devant l'entrée principale du cimetière du Père Lachaise. Un relent de terre remuée montait du vieux jardin des morts. Au loin, sur le gravier, crissait le pas léger d'une vieille dame fantôme qui rentrait à la maison.
Bonjour, je suis Marilyn, le numéro 344 à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. J'ai déjà enregistré pour vous Jade et les sacrés mystères de la vie de François Garagnon, où une merveilleuse petite fille se révèle être un sacré maître spirituel. Et j'ai aussi enregistré « Petit arbre » de Forrest Carter, rangé dans les livres pour la jeunesse, mais dont l'histoire profondément humaine peut émouvoir et sensibiliser les adultes. Le conte du maître et de l'élève, inspiré d'un vieux conte hindou. En Inde, dans une région proche du Tibet, il était une fois un maître et son élève. Quand le maître et l'élève eurent débattu des conditions pratiques d'usage, le maître commença son enseignement. Il dit à son élève « Tu dois être fort, va chercher qui tu es. » L'élève partit chercher la force et un an plus tard, il revint voir son maître et lui dit « Je suis fort. » Pour montrer sa force, il prit un roc qu'il aurait été incapable de déplacer une année auparavant, le leva au-dessus de sa tête et le fracassa en 1000 morceaux sur le sol. « Très bien, dit le maître, tu es fort. Maintenant, tu dois être intelligent. Va chercher qui tu es. » L'élève partit chercher l'intelligence et 3 ans plus tard, il revint voir son maître et lui dit « Je suis intelligent. » Le maître lui donna un texte très volumineux. « Tu viens m'en parler dans 3 heures. » Ce temps écoulé, le maître et l'élève parlèrent de l'ouvrage d'égal à égal jusqu'au lever du jour. Le maître à ce moment-là dit « Tu dois être sensible, va chercher qui tu es. » L'élève partit et son absence dura 10 ans. À son retour, il montra au maître toute sa sensibilité. « Très bien, dit le maître, tu es fort, intelligent, sensible. Tu dois aussi être rigoureux. » L'élève lui coupa la parole et poursuivit. « Je suis qui je suis. »« Je n'ai plus rien à t'apprendre, répondit le maître. Va, ton chemin est bien le tien. » Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne et heureuse année. Prenez soin de vous.
Je m'appelle Martine et je suis donneuse de voix depuis 1 an environ. J'aime lire et faire partager mes découvertes. J'ai enregistré un livre intitulé « À l'ombre des justes » d'Anne-Marie Billet. Ce récit parle des hommes et des femmes qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des Juifs à Grenoble. Le bonhomme des îles. Il était une fois dans un petit village polynésien des enfants qui n'avaient jamais vu la neige. Ils ne savaient pas ce que c'était parce que, dans leur pays, en décembre, il fait trop chaud pour que la neige tombe. Et si jamais elle était tombée, elle aurait, de toute façon, tout de suite fondu. Mais dans ce village, depuis de longs mois, les adultes avaient préparé une surprise pour les enfants. Et en cette veille de Noël, ils les avaient tous rassemblés sur la place, face à la mer, autour d'un buffet croulant sous les fruits, les fleurs et les friandises. Anaï ne voulait pas être la dernière du village à découvrir ce que les adultes avaient préparé pour eux. Et elle houspillait son grand-père. « Vite, Papoun, vite, on va tout rater !» Papoun avait souri, mais il n'en avait pas pressé le pas pour autant. Il connaissait le grand secret et il en riait d'avance de plaisir. Ses yeux noirs pétillaient de malice, bordés de cocotiers et de flamboyants en fleurs. La place fut vite remplie par tous les enfants du village. Un gros conteneur orné d'un ruban de soie jaune attirait la curiosité des gamins qui s'agglutinèrent autour. Le conteneur avait été déposé là durant la nuit, pendant que les enfants dormaient. Le chef du village, l'instituteur de la petite école et monsieur le curé attendaient sur une estrade que tout le monde fût en place. Après un chahut bien compréhensible, tant les enfants étaient pressés de découvrir le cadeau, le grand chef du village leva un bras pour faire silence. Il mit un porte-voix à sa bouche pour que tout le monde l'entende. Des « chut » fusèrent de toutes parts. On n'entendait soudain plus que le bruit des vagues à cause de la plage toute proche. « Voici le moment pour vous de découvrir le secret qui plane depuis plus d'un mois sur notre village. Vous allez être surpris et j'espère heureux de ce cadeau. » Il brandit alors un ciseau descendit de l'estrade et s'avança vers le conteneur. Il coupa le ruban jaune qui s'affaissa à terre. « Maintenant, vous pouvez ouvrir les portes, » déclara-t-il solennellement. Des hommes tirèrent lentement sur les deux battants du conteneur réfrigéré. Aussitôt, les enfants se pressèrent pour en apercevoir le contenu. « Oh !» s'exclamaient les petits avec émotion. Ce qu'ils apercevaient les laissait sans voix. Sous leurs yeux ébahis, une couche de neige d'une bonne cinquantaine de centimètres recouvrait le sol du conteneur et formait même un monticule au milieu. Et, juchés sur le sommet du monticule, les enfants découvrirent un petit bonhomme de neige qui les regardait d'un air étonné. Les enfants n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais vu de neige de leur vie, et encore moins un bonhomme de neige. Le grand chef intervint à nouveau avec son porte-voix. « Eh oui, les enfants, c'est bien de la neige que vous voyez là. Ce bonhomme de neige a été confectionné spécialement pour vous par des enfants de l'autre côté du monde. » La première surprise passée, des rires de plaisir jaillirent, des applaudissements de joie claquèrent, et la confusion revint. Anaé, qui se tenait au premier rang, écarquilla les yeux et regarda son grand-père en souriant. Comme tous les autres, elle était ravie. « Vous pouvez toucher et jouer avec la neige, elle est pour vous !» clama l'instituteur à la ronde. Les enfants bondirent vers le conteneur afin d'être les premiers à toucher cette substance si étrange. Anaé empoigna de la neige, mais la rejeta aussitôt avec un petit cri. « Oh, elle est froide !» Grand-père se mit à rire de sa surprise. « Elle colle dans nos mains !» s'exclama un petit garçon en sautant de joie. « On dirait de l'eau !» s'étonna encore une petite fille désappointée en s'apercevant que la neige fondait sur sa peau toute chaude. Bientôt des boules de neige volèrent. Anaé en reçut une sur le bout du nez et tomba à la renverse, sur les fesses. C'était son copain Caddy qui la lui avait envoyée. Elle se releva aussitôt et confectionna une boule qu'elle lui lança dessus en poussant un cri de joie. On aurait pu penser que des enfants n'ayant jamais vu de neige ne sauraient pas jouer avec, mais rien n'est plus faux. Il suffit qu'ils en aient à leur disposition pour trouver aussitôt les mêmes jeux. Personne ne voulut toucher au bonhomme de neige. À la tombée de la nuit, les enfants s'assirent sur le sol, face au conteneur, et attendirent patiemment que le petit bonhomme de neige disparaisse entièrement. Ils se rappelleraient longtemps de cette nuit, un peu magique, où l'hiver vint jusqu'à eux. Ils engrangèrent des souvenirs inoubliables, qui enchantent encore les discussions autour du feu, au fond des cases.
Bonjour, Nicole, donneuse de voix depuis 17 ans à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, numéro 225. Avec mon époux Jean-Pierre, nous avons enregistré un total de 170 livres de tout genre. Je vous recommande « Le siècle de Florence » de Sophie Chauveau sur les trois grands peintres de la Renaissance, Lippi, Botticelli et Vinci. Et de Delphine Minoui, « Je vous écris de Téhéran ». Dans un autre pays, Zou Seomei, « La rivière et son secret ». Et pour aller encore plus loin, au Japon cette fois, avec Didier Decoin, « Le bureau des jardins et des étangs ». Parmi les nombreux titres que nous avons enregistrés à deux voix, mon mari et moi, en voici trois. De Clara Dupont-Mono, « Le roi disait que j'étais diable » et « La révolte ». De Katharina Mazzetti, « Le mec de la tombe d'à côté » suivi de « Le caveau de famille ». Et de Charles Frazier, « Retour à Cold Mountain ». Mais aujourd'hui, je vous emmène tout simplement dans un conte. Écrit par Henri Gougaud, Duvent. Nyonce, en ce temps-là, souffrait de sécheresse et d'immobilité chronique de l'air bleu. Jamais un grain de pluie, jamais un brin de brise. Tout au long de l'an, les gens respiraient des fournaises plates, suaient et geignaient, le gossier brûlant, la voix presque à faune. Notre pauvre ville est un trou d'enfer. Qui prier? Que faire? La terre est muette. Nous serons bientôt pareils à nos champs, roussis, boucanés et plus racornis que des meurs de soif. Qui prier, compagnon? Dit un jour sur la place où l'on se lamentait un jeune homme râblé à la barbe naissante. Et cela va de soi, les anges et le bon Dieu. Les nuages, le vent sont habitants du ciel. Ils sont donc serviteurs de nos patrons d'en haut, et seuls ces maîtres-là peuvent leur ordonner de venir à notre aide. Il nous faudrait un saint, objecta un vieillard. Vous et moi sommes trop pauvres gens pour que Dieu nous entende. Un grand maigre leva son index décharné. Un saint? J'en connais un. Césaire, évêque d'Arles. Les yeux à demi-clos et les rides pensives, chacun, hochant la tête, estima que l'idée n'était pas si mauvaise. Ils envoyèrent donc le maigre et le rabelais au faiseur de miracles. Saint Césaire habitait une humble maisonnette à côté d'un cyprès. On voyait de chez lui la ville et la campagne. Les hommes le trouvèrent assis devant sa porte à boire sa tisane. Le chapeau à la main, ils firent leur demande. « Césaire, sachez-le, Nyons est invivable. Une chaleur d'enfer étouffe la vallée et nous cuit à feu doux. Vous qui avez chez Dieu votre chambre d'amis, demandez-lui, s'il vous plaît, un bon vent, une brise, un souffle d'angelot propre à nous rafraîchir. » « Ne vous inquiétez pas, leur répondit le saint. Dieu vous soulagera. Mais comme il a besoin d'être aidé dans sa tâche, c'est moi qui trouverai pour lui ce qu'il vous faut. » Il prit son baluchon, sa canne, son missel et s'en alla sur l'heure en quête de bon vent. Il descendit le Rhône. Il parvint à la mer, bredouille et fatigué. Pas la moindre caresse à fourrer dans son sac. Il chemina longtemps, de plus en plus voûté sur son bâton fidèle. Un jour d'été, enfin, vers l'heure de midi, comme il s'était assis, l'espérance en lambeaux, à l'ombre d'un bosquet, pour s'éponger le front et manger son fromage, il entendit là-haut, dans les branches, une musique d'air. Il se dressa sans bruit, prit son gant, le tendit, siffla entre ses dents, chantonna doucement « Viens, ma belle, viens donc !» La brise descendit, éventa sa joue creuse, folâtra un moment dans ses longs cheveux blancs, enfin, docilement, s'engouffra dans le gant. Césaire, d'un coup sec, en ferma l'ouverture et noua autour en lacet. Puis, satisfait, il s'en fut à Nyons. Il y parvint après 4 jours de voyage. Il y trouva les hommes affalés, çà et là, le chapeau sur la nuque et la langue pendante, les femmes assises à l'ombre, agitant mollement leur vaste tablier devant leur face rouge, les enfants hébétés coiffés de leurs mouchoirs noués aux 4 coins. Tous, le long des ruelles, soucieux de ne point gaspiller leur salive, regardèrent passer Césaire, sans rien dire. Le saint homme s'en fut aux portes de la ville, et là, contre un rocher, jeta son sac gonflé, en criant droit au ciel « Je ne peux faire mieux, à toi d'agir, Seigneur !» Le rocher se fendit, et par la fente vint un souffle bienfaisant comme une source fraîche. Chacun dans la vallée en fut ravigoté. Le Pontias était né, intarissable et vif, voluptueux, fringant, parfumé tout l'été de senteurs montagnardes. Et comme il naît dessous qui naît face et revers, son vent contraire vint le même jour au monde. On l'appela Vésine. Il était mauvais, teigneux, gris et rhumatismal. Puisque le Pontias est de Dieu, celui-là doit être du diable. Les gens de Nyons sont chanceux. Quand ces maîtres de l'univers se disputent dans les nuées la royauté de notre monde, eux n'entendent de leur débat que du vent. Du vent. Du vent.
Bonjour, je suis Odile, numéro 296. Un des derniers livres que j'ai enregistré, c'était « L'enfant de la prochaine aurore » de Louise Erdrich. Voici « Bois d'arbre » de Sarah Afonso. « À moi !» supplia le petit frêne en levant une branche. Mais les autres ne l'écoutaient pas. « Et toi ?» demanda le sapin en se servant une goutte de rosée. « Oh, moi !» soupira le chêne. « Je suis trop vieux maintenant. J'ai des nœuds plein les branches. » Mon grand-père, lui, fut charpente d'une abbaye cistercienne. Et mon père traverse pour les premiers chemins de fer. Des ancêtres prestigieux, du bois, comme on n'en fait plus. Moi, mon rêve, risqua le frêne, mais déjà le sapin avait pris la parole. Mes ancêtres à moi sont moins glorieux. La plupart d'entre eux bossent pour les pompes funèbres. À mon avis, le même sort m'attend, ça sent pas bon pour moi. Et toi, petit frêne? Demanda le vieux chêne, se penchant dans un craquement sec. « Moi, je rêve de voyages, d'histoires, de connaissances, de rencontres, de partages. »« T'as de drôles de rêves, l'arbuste !» dit le sapin d'un ton piquant. « Ça va pas être simple. »« Au contraire !» répliqua le petit frêne. « Il me suffira d'être libre !»
Renaud, donneur de voix numéro 310 à la Bibliothèque sonore de Grenoble, Isère, vous suggère le livre de la fin de la soif de Camille de Toledo. Et voici le conte du sceptique et du caveur de truffes. Il y a fort longtemps, dans la région, un sorcier, rebouteux, braconnier, rabassier, caveur de truffes. Bien sûr, il n'aimait pas qu'on le suive dans les bois de chêne ou sur les berges du colostre, et il savait à merveille se glisser dans la nature. On allait le voir pour un bijou égaré, un tour de rein, un rhumatisme ou un mauvais rhume. Il soignait aussi les animaux. On accusait son chien d'être aussi sorcier que son maître. En fait, c'était un brave bougre de basset griffonné, auxiliaire précieux et indispensable pour rechercher les truffes. Un homme avait dû quitter jeune la région quand ses parents moururent. Il y revint vivre avec une pension qui lui permit de retaper la petite maison familiale et de vivoter en jardinant et en relisant sans cesse les mêmes livres qu'il avait ramenés dans une grande malle métallique. La ville l'avait converti au culte de la lecture et de la science et avait fait de lui un esprit fort. Cependant, pour quelque lumbago douloureux, il eut un jour recours au rebouteux qui le calma. Le sorcier ne voulut pas d'argent pour ses services. L'homme alors lui offrit un cadeau qui lui semblait des plus précieux. Un livre. Un livre sur la botanique avec des croquis scientifiques. Le brave rebouteux fut d'autant plus touché par ce don qu'il ne savait pas lire. Il s'établit alors peu à peu une amitié puis une complicité entre les deux solitaires. Le braconnier n'avoua jamais qu'il ne savait pas lire, mais il confia qu'il ne mangeait jamais les truffes qu'il cavait et vendait ou troquait. L'esprit fort eut le bon goût de ne pas rire quand il apprit que le caveur de truffes croyait dur comme fer que les truffes étaient les désirs solidifiés des gens morts de concupiscence et que c'était pour cela qu'elles avaient la couleur noire. Il y eut de belles discussions. Le soir, après la brochette de grive ou le perdreau rôti que partageaient les deux amis, l'un parlait de champignons inoffensifs, l'autre asséné des preuves. Son chien avait été saisi de fureur érotique après avoir croqué une petite truffe, et la chienne de la ferme voisine avait eu 12 chiots, pas moins. Et ça, c'était une preuve scientifique. L'amitié ne fut jamais entamée par ces discussions. Survint un jour la femme, sous les traits d'une veuve qui allait frôler bientôt l'opulente quarantaine. La dame avait quelques terrains qui lézardaient au soleil l'été et se gelaient l'hiver. Les bras et la pension de l'esprit fort n'étaient pas dénués de charmes utiles. On se rapprocha par tiers interposés et un mariage fut conclu, que le rebouteux approuva dès qu'il sut être l'invité bienvenu du futur ménage. La raison a toujours eu du mal à commander les sentiments. L'esprit fort prit conscience de son long célibat et se mit à douter, non pas de son élan pour sa promise, mais de sa capacité à l'exprimer. En la matière, le doute entretient le doute et le doute entraîne la déficience. L'esprit fort confia au rebouteux sa crainte d'avoir les aiguillettes nouées par le doute. La veille des noces, dans une soirée rendue cristalline par le mistral de janvier, le rebouteux invita son ami à un dernier repas de célibataire. Pour la circonstance, il fit une brouillade de truffes un peu rustique, mais solidement parfumée de 3 magnifiques truffes râpées dans les œufs avec beaucoup d'amitié. L'esprit fort fut touché de cette attention. Il mangea tout seul l'omelette à laquelle son ami ne voulut bien sûr pas toucher. Le lendemain, il épousa la veuve. 10 lunes plus tard, naquirent chez l'esprit fort les premiers triplés de la région. Ils étaient magnifiques. Le rebouteux vint complimenter son ami et lui affirma « C'est scientifique, je te dis. » L'esprit fort se demanda jusqu'à la fin de sa vie ce qu'il en eût été si l'omelette avait été faite avec 5 truffe. Renaud, numéro 310 de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, a lu pour vous Ordessa de Manuel Villas. Et voici un conte rapporté par Henri Gougaud. La mauvaise et le fagotier. C'était une sale sorcière. Elle habitait un chêne mort. Elle était haineuse, rouillée. Elle effrayait les bûcherons. Elle tourmentait les charbonniers. Elle faisait taire les oiseaux quand elle se glissait sous les arbres. Un jour, un vieux, sa journée faite, rassemblait son bois en fagot quand elle apparut dans la brume qui errait au ras des buissons. « Misère !» se dit le bonhomme. « Voilà la vieille au mauvais œil. Vite, un caillou que je l'assomme avant qu'elle me saute dessus !» Elle était à 10 pas de lui, le menton posé sur sa canne. Son regard luisait méchamment. Elle ricana. « J'entends, j'entends, tu veux me lancer un caillou, tu veux casser ma pauvre tête !» Le vieux pensa, « Elle est maligne, mieux vaut ma serpe, sacré nom, je vais lui trancher l'oreille !» L'autre grinça, « Oh, j'entends bien, tu veux me trancher les oreilles, mais il te faudrait pour cela moins de peur, plus de cœur au ventre, ta serpe tremble dans ton poing. » Elle devine tout, la bougresse, tout ce qui me vient à l'esprit. Elle me le crache à la figure, pensa le vieux épouvanté. Malheur, elle va me dévorer. Te dévorer, dit la sorcière. Tiens, pourquoi pas, c'est une idée. Elle s'avança, riant du nez. Ne plus vouloir, ne plus penser, ignorer même sa présence, se dit l'homme. Ma chance est là. Il se remit à son ouvrage, la tête vide en sifflotant. La vieille se pencha sur lui. Il renifla, fit la grimace. Elle recula, mais pas assez. Le vieux ramassa son fagot et, se le chargeant sur le dos, il éborgna la malfaisante. S'en aperçut-il même pas ? Elle s'enfuit, les mains en avant, courant à travers les feuillages. L'homme prit le chemin inverse, sans rien en tête que marcher, pas après pas, sous son fardeau.
Les 365 prochains jours seront porteurs de joie et de contraintes. Faisons en sorte de toujours trouver le point positif, même infime, de la situation que nous vivons. Et réjouissons-nous de chaque instant de bonheur qui croise notre route. Bonne année et surtout une bonne santé. Prenez bien soin de vous et restez prudents.